Bonjour chers amis, que le Seigneur vous accorde la grâce de toujours aimer la vérité, l'évangile de plus en plus. Bonjour Monsieur Stevens, soyez bénis tous. Bonjour Mathilde, bonjour Annette. Gloire à Dieu. Que le Seigneur augmente en nous l'amour pour les autres, l'amour pour l'Évangile, et que le Seigneur augmente en nous la puissance de l'activité de son Saint-Esprit. Chers amis, il est difficile pour nous de contrôler nos humeurs, nos pulsions. Nous avons tous eu des frustrations dans la vie et nous avons tous des rêves ou des projections. Mais est-ce que c'est cela que le Saint-Esprit veut ? Est-ce que c'est cela que Dieu veut ? Aujourd'hui, le thème, c'est plutôt de s'incliner devant l'action directe de Dieu, l'action souveraine de Dieu dans nos vies, et de ne pas se laisser aller à écouter la chair. Notre corps a ses ordonnances, notre corps a ses règles, il a ses tendances. Et il a, bien sûr, des attraits pour des tas de choses qui ne sont pas les mêmes que Dieu. Donc notre corps établit une certaine souveraineté. Et c'est pour ça qu'il est bon de parfois renoncer au repas, de jeûner, de renoncer à certaines convoitises, et surtout de prendre le temps de la prière, le temps de méditer à parole de Dieu. Celui qui ne sait rien, renoncer à rien du tout, ne peut pas avoir de grande victoire. Sachez-le bien, c'est nécessaire de renoncer à beaucoup de choses, et c'est nécessaire de laisser de plus en plus de place à Jésus-Christ dans nos vies, car les temps sont courts. Peut-être même trop courts pour certains, mais on ne peut pas toujours attendre. Il faut se presser, se hâter d'accomplir la volonté de Dieu, d'entrer véritablement, réellement dans le royaume de Dieu, en pratiquant sa volonté. Ne tardons pas, car les vierges folles dans Matthieu 25 ont été prises de court. Alors ne soyons pas de celles-là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le verset, bien sûr, qui résume encore le carnage, mais il devrait être dehors aussi. Matthieu 22, verset 20, celui qui atteste, Apocalypse 22, verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Celui qui atteste ces choses, donc Christ qui a parlé à l'apôtre Jean dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Bon, voilà. Bonjour. Bonjour à d'autres qui s'ajoutent, que je vois, je ne vais pas citer les noms par discrétion. Donc, si Jésus vient et qu'il nous demande que la grâce, sa grâce soit sur nous dans nos vies, préparons-nous. Alors, je reprends un petit peu au départ de l'humanité. Dans les textes de la Genèse, Enoch marcha avec Dieu. Genèse, chapitre 5, verset 24. Marcher avec Dieu, c'est avoir le souci de l'intégrité, le souci de la volonté de Dieu, et s'investir pour la mettre en pratique. C'est ça, marcher avec Dieu. Et c'est surtout ne pas jouer double jeu, c'est avoir une attitude intègre. C'est un état d'intégrité, tout compte fait, pratique. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. On pourrait ajouter, il ne fut plus sur terre, hein, parce que Dieu le prit. Donc Enoch est le premier humain à la 7e génération qui est, merci pour les petits bonhommes tout jaunes là, avec des beaux sourires, j'adore ça. Dieu a pris Enoch. C'est un témoignage très important, parce que dans les premiers humains, quelqu'un a déjà reçu ce cadeau d'être enlevé et d'être auprès de Dieu, ne pas connaître la mort. Donc, quelque part, il faut savoir, chers amis, que la mort n'a jamais été la création de Dieu. La mort est le résultat du péché, de la chute d'Adam et Ève et nos chutes. Mais Enoch a échappé à la conséquence fatale du péché. On ne dit pas s'il avait des péchés ou pas. Probablement, je pense, puisque Paul dans Romains dit « Tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu », mais il a accompli la volonté de Dieu. Et Enoch est un bon exemple d'un homme récompensé, glorifié par le Seigneur. Je souhaite à vous, je souhaite à vous, à chacun de vous. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, au verset 1, l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Quand on lit toujours dans le deuxième livre des Rois, chapitre 2, au verset 11, ben, l'Éternel fit monter Élie au ciel, mais il le prit sur un char de feu, tiré par des chevaux de feu, dans un tourbillon. Clairement, il y a un acte de puissance très, très fort. Et ces chevaux de feu, on les retrouve dans l'Apocalypse, à un moment donné, pour briser les nations diaboliques et pour démontrer la puissance de Dieu. Alors, chaque fois que Élisée tient les baskets, comme je vais dire, de Élie, parce qu'il sait qu'Élie va partir, il sait, les autres lui disent même. Les collègues de Élisée lui disent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Toujours, deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 3. Au-dessus de ta tête, que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître. Oui, parce que Élisée était un paysan, il plantait des terrains baintes et il faisait de la culture, il avait de nombreux bœufs et des ouvriers et il avait, beaucoup d'affection pour Élie, et c'est lui, Élie a vieilli, lui lavait les mains, lavait les pieds, il le servait à table. Mais voilà que Élie va disparaître, Élie lui a dit, les autres prophètes lui disent, mais lui il s'accroche, il n'a pas envie qu'il parte. Un peu comme l'apôtre Pierre, qui ne voulait pas que Jésus soit crucifié. Chaque fois, il a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Chaque fois, ton âme est vivante, c'est bien sûr celle d'Élie, tout comme celle d'Élisée. Et c'est bien sûr Élisée qui dit ça, je ne te quitterai point. Il dit ça à Élie, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il a fait le choix de la vie divine. Il a fait le choix de la vie toute puissante de Dieu. Il n'a pas fait le choix de la vie artificielle et mensongère. Il n'a pas fait le choix de la vie du péché. C'est un homme qui aime la vérité. C'est un homme qui aime le vrai, qui aime se conformer à ce que sa conscience lui dicte. Et sans doute à ce que les prophètes, parfois les prêtres de son époque, lui enseignaient. Alors, Élie, bien sûr, lui parle et lui dit que avant que je sois enlevé d'avec toi, tu pourras demander quelque chose. Et Élisée demande à avoir la force double d'Élie, la force spirituelle, la puissance du Saint-Esprit en double. Pourquoi? Mais parce qu'il sait qu'Akap et Jézabel et tous les autres, ils seraient pas des rigolos. Il va se retrouver tout seul dans une pagaille monstre alentour de lui, mais vraiment mauvaise. On massacrait les prêtres, on massacrait les prophètes, on fabriquait des veaux d'or, des statues partout, on faisait des sacrifices humains. C'était les rites cananéens venus du Liban, des Hittites. Alors, vous comprenez qu'il lui fallait absolument une garantie, et il la demande. Alors, oui, peut-être que l'Éternel va te la donner, peut-être, 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 Élie. Et finalement, oui, quand Élie s'en va, la puissance de l'Esprit-Saint est grandement donnée à Élisée. Bien sûr, quand Élie est parti, il y a plein de gens alentour d'Élisée qui, ceux qui disaient même, tu sais, aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de ta tête, mais c'est ceux-là qui doutaient, pour finir, et qui n'y croyaient pas. Alors ils demandent à Élisée, est-ce qu'on peut aller dans les montagnes, on peut envoyer des hommes pour chercher pendant 3, 4 jours, peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Et c'est quelque chose qui arrive spirituellement. Ce fait-là peut arriver, hein, n'est-ce pas, à quelqu'un. On le verra plus tard dans les textes. Eh bien, peut-être que Élisée dit, non, non, il faut pas y aller. Bon, pour finir, ils insistent, puisque vous voulez y aller, allez chercher. Pendant 3 jours, ils reviennent, qu'est-ce que je vous avais dit? Donc, Élisée était convaincu que Élie était parti hors de ce monde humain et qu'il était avec Dieu. Parce que Élie, tout comme Énoch, sont des gens qui s'en fichent bien pas mal de nous maintenant. Est-ce que Élie, Énoch et tous ceux qui sont auprès de Dieu, ouais, n'ont plus d'intérêt pour nous? Après moi les mouches, c'est fini. Non, c'est pas vraiment ça. Parce que le ciel, ce n'est pas une question de kilomètres. Il n'y a pas d'espace dans la réalité divine. Il n'y a pas de temps. Pierre le dit lui-même que 1000 ans est comme un jour pour Dieu, et 1000 ans est comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. Donc il n'y a pas de notion de temps. Dieu gère absolument toute circonstance à sa manière. C'est nous qui nous sommes soumis au temps, comme nous sommes soumis à l'espace. Si je suis né en Belgique, je suis pas né en Chine en même temps. Ainsi, je vis ici et je travaille ici, je ne travaille pas en même temps au Brésil. Donc, clairement, je suis localisé, je suis dans l'espace bien situé. Mais pour Dieu, la condition, les limites d'espace et de temps n'existent pas. Et ça, bien sûr, il faut le savoir, quand quelqu'un est enlevé, il rentre dans une autre dimension. Il n'est plus limité au temps et à l'espace. Le troisième passage que je voudrais vous montrer, c'est dans Matthieu 17, versets 1 à 9. C'est la manifestation, tout à fait, je vais dire, la démonstration par Jésus de la réalité de ce que j'essaye de vous expliquer maintenant et qui nous concerne, heureusement d'ailleurs, parce que si nous ne connaissions que ce temps de galère sur la terre, c'est pas marrant du tout. Quelques plaisirs et beaucoup d'ennuis, n'est-ce pas, sur cette planète. Alors, Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne, donc le mont, au pied du mont Hermon. C'est tout à fait dans le nord de Israël, la partie qui a été conquise en 1967, où il y a des casques bleus d'ailleurs. Il fut transfiguré devant eux, donc il change de visage, d'aspect. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Donc, réellement, Pierre, comme ses deux amis, considère que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, et que pour finir, autant rester dans cette situation-là. Donc, nous voyons que l'existence de Moïse et d'Élie n'a pas été interrompue. Nous voyons qu'elle n'est même pas, la proximité avec Moïse et Élie n'est même pas interdite. Avec Jésus, cette proximité des prophètes, des saints, nous est donnée. Mais la clé de voûte de notre relation avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce n'est ni Moïse, ni Élie, ni n'importe quel saint. Tous ceux-là qui vivent autour de Dieu sont bien sûr vivants et savent ce que nous faisons, ce que nous disons. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Donc ça, c'est parce qu'il sait que à la fin des temps, quand Israël sera converti, que Christ sera là pour établir son royaume, et il y aura la fête des tabernacles. Zacharie 14. Donc lui, comme il croit que l'histoire humaine est finie, et tant mieux pour lui, il le croit, eh bien, il dit, on va faire des tentes. Mais c'est pas le moment. Jésus a dit, c'est pas encore maintenant. Quand il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alors, je voudrais faire une réflexion qui est très importante, c'est que Enoch est en présence de Christ, et Jésus est plein d'affection pour lui. Comme le Père est plein d'affection pour Jésus, Jésus est plein d'affection pour Enoch, pour Élie, pour Moïse, pour tous ceux qui sont là auprès de lui. L'affection est grande en Dieu, l'affection est grande en Christ, pour nous. Elle est immense. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc le Christ a une capacité de parler à ceux qui sont sur terre, par son évangile, par le Saint-Esprit, par la conscience, mais le Christ a aussi la capacité de parler à tous ceux qui sont près de lui dans le ciel. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Rappelez-vous que je vous ai lu dernièrement, dans d'autres messages, l'apparition du Fils de l'homme devant Daniel, à trois ou quatre reprises dans sa vie. Il a vu la divinité, Dieu, sous forme humaine, et il appelle le Fils de l'homme, et Jésus se fait appeler le Fils de l'homme. Donc, vous voyez qu'ici, la même frayeur que pour Daniel, mais le même amour et la même expression, tendresse, relève-toi, n'aie pas peur. Ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Bon, évidemment, maintenant Jésus est ressuscité, donc nous pouvons en parler de cette manifestation glorieuse de Jésus sur le mont Hermon. On va revenir à ça. Donc, dans Matthieu 28, verset 6, nous allons à la résurrection. Matthieu 26, verset 6. 28, verset 6. Excusez-moi, aujourd'hui j'étais fort fatigué. Je suis en contact avec des personnes qui ont des gros problèmes spirituels, très forts, et ça retombe sur moi. Dans Matthieu 28, je vais commencer au début, Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » C'est très important de savoir que lorsque nous verrons Dieu face à face, si nous l'avons cherché toute notre vie, Dieu le sait, nous ne devons pas aller vers lui dans la crainte. Nous devons aller avec la simplicité de cœur, avec foi et avec amour, confiance en lui. Voici alors ce que l'ange dit, « Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici je vous l'ai dit. » Donc Jésus disparaît et réapparaît. Dans le processus de la puissance divine, la puissance du Saint-Esprit, qui se manifeste dans le ressuscité, dans ce processus, Jésus peut se déplacer où il veut, quand il veut, et il peut manifester sa présence, sa vérité, son amour pour ses disciples. Et de même pour nous. De même pour nous. Donc, au verset 16, Matthieu 28, verset 16, les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Et quelques-uns eurent des doutes. Vous voyez que notre conscience est toujours libre de choisir, hein, même en face de Dieu vivant. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des enseignés, donc dites-leur que je suis ressuscité, pour eux, ils peuvent croire en moi, que je leur ai ouvert la porte du ciel, que j'ai payé leur dette à la croix, et qu'ils peuvent me faire confiance, ils peuvent me suivre, devenir les enseignants, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » L'expression « je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » est primordiale pour nous. Primordiale. C'est la base d'une véritable vie solide, aujourd'hui, dans un monde très perturbé.
C'est le loup.
C'est le loup qui l'a ouvert. C'est le loup qui est remonté. Non, il faut le sortir. Il faut le sortir. Hein. Il faut quand même. Est-ce qu'il veut tout de suite ou pas? Bénédicte? Béné, veux-tu faire remonter, il a ouvert la porte tout seul, il faut le sortir.
La plus grande assurance, ce qui peut faire la solidité de quelqu'un, c'est d'être sur cette terre sans être seul. C'est pour ça que souvent on cherche un conjoint. Ou, si on n'a plus de conjoint, on cherche la confiance des enfants, la relation, ou on cherche des amis. Ou si on n'a pas d'amis, on n'a pas de conjoint, etc., on va au bistrot, on boit des bonnes chopes, et on reste des heures là au bistrot pour essayer de chercher quelqu'un pour ne pas être seul. Et puis, j'ai eu la confidence plusieurs fois de personnes qui sont des prostituées, et qui m'ont dit, mais beaucoup de gens nous racontent leur vie. Donc, beaucoup de personnes sont seules et ont besoin de raconter leur vie. Et donc, sachez bien ceci, nous pouvons chercher mieux et nous pouvons trouver mieux. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est vivant, il est ressuscité. Parlons-lui dans le secret de notre chambre. Parlons-lui, seul à seul. Et parfois, réunissons-nous et louons-le et parlons-lui ensemble. prions ensemble. Et si quelqu'un est timide ou ne sait pas encore parler à voix haute, bien qu'il parle dans le secret de son cœur, en présence d'amis sincères. Il faut savoir trouver le vrai ami. Et vous savez bien que dans Jean chapitre 15, verset 15, Jésus a dit, vous êtes mes amis. Alors, l'amitié de Jésus, c'est mieux que tous les ersatz de ce monde. Je voyais hier à la télévision que les mollahs d'Afghanistan allaient à Oslo pour réclamer aux Nations Unies, etc., 5 milliards de dollars. Ah, ils ne manquent pas de culot, ceux-là. Et ils vont là, il y a plein de délégués de l'Europe, etc., qui vont là, qui vont leur faire des courbettes. Franchement, voulez-vous être ami de gens pareils? Pour le moment, en Afghanistan, il y a des délégués, des Pashtuns, des délégués, des fanatiques qui font les porte-à-porte pour demander s'il n'y a pas des chrétiens, qui posent des questions et qui les recherchent pour les mettre en prison, les violer et les tuer. C'est le pays où il y a le plus de persécutions maintenant, en quelques mois. Et ils ont le culot de venir nous demander des sous. Et on a ces bêtes, peut-être, encore, pour leur en donner, pour pouvoir vendre après des armes, des industries, etc. Ils vont faire un développement formidable du grand califat d'Afghanistan. Avec nos complicités, parfois on est capable de tout ici en Occident. C'est bien regrettable. Bien regrettable. Pouvons-nous choisir nos amis réellement dans une situation pareille? Nos dirigeants vont-ils faire feu de tout bois? Avoir des amis en tout genre? Chers amis, à qui pouvons-nous confier? C'est ça qui ébranle beaucoup de personnes aujourd'hui. Eh bien, confiez-vous en Jésus-Christ. Il vous décevra jamais. En plus, il est vivant, il est tout-puissant. Vous serez surpris des signes qu'il peut vous faire si vous êtes sincère et vrai avec lui. Prenons Luc 24. Luc 24, verset 15. Luc était un médecin grec qui s'est converti au contact de Paul et de Pierre. Et de Paul. Bien sûr, en premier. Il le visitait en prison, il le consolait et il écrivait tout ce que Paul avait à dire. Luc 24, verset 15. Et si vous allez sur Netflix, vous pouvez, Netflix, vous pouvez trouver le récit de l'apôtre Paul. C'est très bien fait. Et vous allez voir la dureté de l'Empire romain sur les chrétiens. C'est pas mieux que la dureté des mollahs, des Pashtuns, des talibans en Afghanistan et en Iran. Et que le pouvoir chinois sur les chrétiens. Quoi qu'on en dise, ça chauffe aussi là-bas pour eux. Luc chapitre 24, verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, donc je vais prendre verset 13. Ce même jour, deux disciples de Jésus allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, 9 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, la crucifixion, etc., la mise au tombeau. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Donc, ils ne savent pas que Jésus est ressuscité. Nous voyons que Jésus s'approche de quelqu'un qui ne comprend plus rien. Nous voyons que Jésus s'approche de quelqu'un qui n'a pas la solution à sa vie, qui a espéré quelque chose et qui est déçu. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. N'y a-t-il pas parmi nous tellement de gens aux yeux aveugles, aux oreilles sourdes? Eh bien, Jésus est capable de délivrer les oreilles sourdes pour qu'elles entendent et les yeux aveugles pour qu'ils voient. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? Quoi ? Leur dit-il, il fait l'innocent, hein, il fait le béotien. Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux prêtres et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre toutes ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Alors, la caractéristique même de Jésus, au-delà de sa bonté, de sa simplicité, de son immense humanité, de sa grande miséricorde, la caractéristique même, c'est qu'il a accompli des prophéties de plusieurs siècles le concernant. Et ça, c'est pas nous. Nous, on n'a jamais eu des prophéties parlant de nous depuis des siècles. Donc, l'originalité de Jésus, c'est qu'il accomplit les Écritures. Pourquoi? Parce qu'il doit être authentifié par les Écritures et par tous les prophètes et toute la révélation qu'a donné le Saint-Esprit à tous ces prophètes. Donc, Jésus est authentifié aussi par sa résurrection. Donc, Jésus peut nous donner à nous des signes de son authenticité, de sa personnalité, de sa vérité. Cherchez-le, chers amis. Qui cherche trouve. Cherchez-le. Ne doutez pas, il est là, il sait si réellement vous le cherchez ou pas. Et prenez patience. Lisez l'Écriture, lisez les évangiles, lisez les psaumes. Donc Jésus s'approcha et fit route avec eux. Pourquoi pas avec nous? Puis, au verset 31, Jésus disparut de devant eux. Ah, on ne le met pas dans la poche. Vous savez, mes amis, il faut faire une différence. Là où je vais faire étude biblique à Gourincourt, à Longwy, depuis des années, il y a une église catholique, une belle grande église, qui a été construite il y a peut-être 60 ans, 70 ans, et maintenant qui est vide. Tout le quartier est occupé par des Portugais, des Italiens, mais il y a aussi des musulmans, mais il y a assez de chrétiens catholiques que pour faire vivre cette église. Mais non, plus personne n'y va, cette église est fermée, il n'y a plus de prêtres, l'évêché ne s'y intéresse plus, elle est là. Et donc, à un moment donné, l'évêque est venu ou son délégué pour désacraliser l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un jour, quand on l'a construite, on a amené Jésus, sous forme d'hostie, de morceaux de pain, dans le tabernacle, une petite maison en pierre ou en bois au milieu de l'autel. Et puis ensuite, quand l'église a été vidée et qu'il n'y avait plus d'office, de messe, eh bien on a retiré Jésus de l'église. Je voudrais quand même vous faire remarquer ceci. C'est que dans l'évangile, Jésus est souverain, il va où il veut, il disparaît quand il vient et il revient quand il veut. C'est ni un évêque, ni moi qui le fait venir à telle place, qu'il fait partir d'une telle place. Nous avons quand même un christianisme édulcoré et qui a tout renversé. Dans tous les textes de la résurrection, c'est Jésus qui a l'initiative. Dans Matthieu 24, verset 36, Jésus se présenta au milieu d'eux, donc concrètement, physiquement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mange avec eux. Ensuite, il montre les trous dans ses mains, dans ses pieds, de son côté. Au verset 49, il leur dit, mais attention, vous restez ici à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, comme Élisée, qui l'a reçue quand Élie est parti. Si Jésus s'en va et veut nous donner la puissance d'en haut, pourquoi la refuser? Pourquoi refuser cette puissance de sainteté, cette puissance, cette dynamique que Dieu a en réserve pour nous? Et le grand problème, c'est notre incrédulité. C'est pas notre rationalité, c'est nos raisonnements. Alors, il faut bien se dire que il y a eu, dans Acte 7, des affirmations, on va les voir, Acte 7, verset 30, des affirmations qui montrent un Dieu vivant. Et quand je dis des affirmations qui montrent un Dieu vivant, c'est parce qu'il n'y en a qu'un. Un seul, unicité de Dieu. Acte 7, verset 30. C'est notre cher Étienne qui parle, parce qu'il est au tribunal religieux, on va le massacrer d'ailleurs, mais il parle. Verset 30. 40 ans plus tard, un ange apparut à Moïse au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur, de Dieu, se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui dit « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te... » Tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef, comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est cet ange qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Moïse dit aux fils d'Israël, « Dieu suscitera entre vos frères un prophète comme moi. » Alors, considérez, chers amis, considérez que le peuple dans la souffrance a été entendu par Dieu. Que le peuple dans la souffrance d'aujourd'hui, le peuple qui souffre, il y en a plein. Moi, je vois, on me communique des choses venues du Pakistan, tout ça. Beaucoup de gens souffrent sur la terre. D'après l'organisation Portes Ouvertes, il y a 380 millions de chrétiens fortement persécutés actuellement. Et moi, je suis en communication avec quelques centaines. Et pratiquement, je peux vous dire que c'est pas marrant. Travailler 15 heures dans la boue, les pieds dans la boue, hommes, femmes, 3-4 enfants, pour au total 1,50 € par jour, quand on leur donne. Et actuellement, comme il y a le Covid, ils ne peuvent pas sortir. La police circule pour les repérer. Et d'ailleurs, ils n'ont pas d'argent pour acheter les masques.
Ça va. Je serai chez vous vers 13 heures.
Pratiquement, si vous voulez, cette souffrance est considérable. C'est l'hiver. Comment peuvent-ils se chauffer? Que vont-ils manger? Heureusement, mes frères et mes sœurs, qu'à travers vous, il y a des personnes, et même ma femme aussi, mais il y a c'est généralement des femmes qui interviennent, et déjà d'un âge avancé, et qui procurent de l'argent pour aider ces gens, qui ont de la compassion pour ces personnes. Mais Dieu a de la compassion, il entend les cris, les gémissements du peuple, comme il a entendu à l'époque de Moïse, ceux de son peuple. Et ils font exactement le même boulot. Alors, chers amis, Il faut savoir que ce Moïse peut être remplacé par quelqu'un de plus grand. Regardez bien ce qui est dit. C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Et on voit dans Deutéronome que Moïse dit, il sera plus grand que moi. Il dira toutes les paroles de Dieu. Et écoutez-le, il s'agit de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ entend la parole de son peuple aujourd'hui qui souffre, et entend la parole de tous ceux qui le cherchent, d'un cœur sincère, qui sont plongés dans des difficultés énormes, il reviendra, tout comme il a fait pour les Hébreux en Égypte. C'est cela que je veux vous dire. Il n'y a pas de doute, l'autorité de Dieu est grande sur les événements à venir. Prenons maintenant, dans Actes, chapitre 8, verset 29, un autre exemple. Demain, c'est mardi.
Oui, voilà.
Acte 8, 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, « Avance, approche-toi de ce char. » Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Vous voyez que cet homme recherchait Dieu, le Dieu vivant. Et Philippe a été guidé pour trouver cet homme dans le désert, sur une route perdue. Philippe a été guidé. Peut-être que si vous cherchez vraiment Dieu et que vous le dites à Dieu, Dieu guidera quelqu'un vers vous pour vous aider. Dieu guidera quelqu'un. Il prendra soin de vous. Comme il l'a fait pour moi. Alors, comment se fait-il après? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, cet homme va croire en Jésus-Christ. Il va être baptisé dans une petite rivière. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Verset 39, acte 8, 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que lui, joyeux, il poursuivait sa route et Philippe se trouva dans Azote, donc à 80 km de là, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Nous voyons que l'Esprit Saint a enlevé physiquement Philippe et l'a envoyé dans un autre boulot. La maîtrise de Dieu existe à ce point-là. Vous n'y croyez pas? Et pourtant, il y a des gens qui vont au Tibet, qui rencontrent les lamas. C'est les lamas qui font de l'invitation. Des lamas qui se trouvent à une place et puis à une deuxième place. C'est quoi ça? Il y a des phénomènes spirituels que vous ne pouvez pas expliquer. Sortez de vos raisonnements cartésiens, européens, et sachez bien qu'il y a des choses très étonnantes. Mais ici, je parle de Jésus-Christ. Je ne fais pas la réclame pour les moines tibétains, pour les lamasseries. Alors, nous allons aller plus loin aujourd'hui dans les textes. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Première aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Donc, ceux qui ont la foi, qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme toutes les autres personnes qui n'ont pas d'espérance, pas de foi. Car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus Et avec Jésus, ceux qui sont décédés. Donc, vous voyez l'autorité de Dieu de garder les siens, et la mort n'est qu'un petit passage. Il les garde et il les fait revenir. Comme Jésus est revenu. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur Jésus. Nous les vivants, donc ceux qui sont sur terre au moment où Jésus revient, nous les vivants au sens spirituel, qui croient en Jésus, et au sens physique, nous les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra, tous ceux qui ont eu la foi, qui ont mis leur confiance dans le Seigneur, sont relevés du tombeau, ressuscitent. L'âme est remise dans le corps. Lisez Ézéchiel 37, si vous doutez de... Allez voir Ézéchiel 37, un texte 6 siècles avant Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ensuite, nous les vivants, qui seront restés sur terre, qui n'auront pas connu physiquement la mort, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, enlevés dans des nuées, vous avez lu avec moi, vous avez entendu du moins, Matthieu 17, que Pierre, Jacques et Jean, Élie, Moïse, Jésus étaient dans la nuée sur la montagne. Donc, c'est tout à fait concevable et possible. Nous prenons maintenant le chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce n'est pas la nuit, obscurité, quand nous dormons. La nuit, c'est-à-dire dans ce monde de péché, ce monde qui ne connaît pas Dieu. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Obsession de la paix et de la sécurité. Et ça augmente à fond. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, donc vous n'êtes pas sans Dieu, sans le Christ, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, Jésus-Christ, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. L'image de l'homme déchu, les ténèbres, n'est-ce pas? Bénédicte, allant hier à la manifestation à Bruxelles, pour la liberté de la vaccination, elle n'est pas contre ceux qui se font vacciner, elle est contre l'obligation, l'intransigeance qui avance toujours plus, et la privation de liberté. On nous demande une soumission parfaite, inconditionnelle de plus en plus, dans ce système. Et c'est ça qui est dangereux. Comme avant la guerre de 40 avec Hitler en Allemagne, et en France avec Pétain, Vichy. Alors, il faut faire attention, vous n'êtes pas des ténèbres, vous n'êtes pas de la nuit. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Donc ceux qui dorment, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui s'enivrent, c'est ceux qui commettent tous les excès. Nous sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions toujours ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. La foi de vivre avec Christ, avec Jésus, tous les jours. Et ça, il n'y a pas besoin d'un temple, d'une basilique, d'une synagogue. Simplement, on peut vivre sa foi dans le champ, dans l'auto, sur le tracteur, dans le camion, au bureau. On peut avoir la foi, c'est ce qui se passe dans mon cœur, et qui est le dialogue que j'ai avec Dieu. cette confiance que j'ai avec Jésus-Christ. Et c'est là la foi. Le temple, la vraie église, c'est mon âme, c'est mon cœur. N'est-ce pas? Et donc, nous n'avons pas de doute, si nous avons cette vie-là spirituelle en nous, nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes de la lumière. C'est ça que Paul dit dans son épître. Qu'est-ce qu'il dit dans la deuxième épître, au chapitre 2? Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, si vous recherchez sur une carte de Grèce, vous ne trouverez pas Thessalonique. C'est disparu. Il y a les ruines, c'est juste à côté Salonique. La ville de Salonique existe, juste à côté. Deuxième épître, lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelqu'un qui se prétend inspiré, ou qui a une parole, ou qui fait une lettre, en faisant croire que ça vient de nous. Comme si le jour du Seigneur, de Jésus, était déjà arrivé. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Pourquoi? Parce que, avant le retour de Jésus, il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, il faut que le règne dans le monde, juste avant la venue de Jésus, il y a un faux Christ qui arrive. Il y a quelqu'un qui va tyranniser le monde, mais il va séduire d'abord. Il va se faire passer pour l'envoyé de Dieu, un homme de paix, qui va assurer la paix et la prospérité. 3 ans et demi, c'est expliqué dans le livre de Daniel, 6 siècles avant Jésus. Et puis après, il y a 3 ans et demi où, là, il cadre, il martyrise les humains. Et il fait disparaître les 3/4 de la population mondiale. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Donc, le retour de Jésus ne précède pas l'Antichrist. Il faut que l'Antichrist vienne. Il faut que les gens choisissent ou le grand dictateur mondial, le grand séducteur, le grand menteur, ou Jésus-Christ de Nazareth, celui de l'Évangile. On doit choisir. Et chacun choisira. Vous voyez déjà bien, observez tout ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que, alors, quand il apparaît, la grande apostasie, c'est-à-dire que tout le monde l'adore et le sert. Et puis, bien sûr, ils se font avoir. Parce qu'à un moment donné, il se fait adorer comme Dieu. Alors, beaucoup se révoltent, n'en veulent plus. Et alors là, il les fait souffrir à l'extrême et il fait mourir. Pour nous, aujourd'hui, évitons de tomber dans l'égarement. Évitons de tomber dans la folie de dire « Dieu n'existe pas, Jésus n'a pas existé ». Lisons d'abord l'Évangile. Laissons parler Jésus à notre cœur. Laissons Jésus nous parler, à notre cœur, à notre âme. Et ne nous laissons pas troubler dans cette période qui précède l'Antichrist. Ne nous laissons pas séduire et entraîner par un grand futur dictateur mondial qui, semble-t-il, procurerait toutes les solutions à tous les problèmes. Soyez bénis si vous avez compris cela. Soyez bénis. Car Dieu aura le dernier mot. Ne l'oubliez pas. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas toujours forcément la majorité qui a raison. Combien de fois Einstein, dans sa vie, a établi des calculs, a produit des données scientifiques. Tout le monde scientifique se foutait de lui. Et puis, quand il a eu fait la preuve de tout, quand la réalité a sauté aux yeux, ah, on dit d'Einstein que c'est un grand homme. Mais on l'a pris pour un idiot, un taré. Même à l'école primaire, à l'école secondaire. La majorité des personnes se laissent séduire. N'en soyez pas. Apocalypse 19, ce n'est pas la force du nombre qui fait la véracité de quelque chose. La vérité n'est pas forcément dans la télévision et sur Internet. Lisez l'Évangile, cherchez Jésus-Christ. L'Esprit Saint vous conduira et vous dira où est le faux et où est le vrai. Apocalypse 19, verset 11. Je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice, sainteté. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, celui de la croix, le Golgotha. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Rappelez-vous que Élie a été enlevé par des chevaux. Que Élisée était protégé du roi de Syrie par des anges, des cavaleries avec des anges et des chevaux. De sa bouche sortait une épée aiguë, donc sa parole, pour frapper les nations. Il ne frappait pas pour tuer. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc, Jésus est Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le croyez-vous? Personne ne vous y oblige. Au chapitre 21, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre, sous l'Antichrist, durant cette période de ce grand séducteur, c'est le grand carnage, et tout est fichu. Tout est dévoré, tout est détruit. Alors ce qui se passe, Dieu refait tout à nouveau. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici, la maison de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Écris, ces paroles sont certaines et véritables. Je fais toutes choses nouvelles, chers amis. C'est formidable. C'est formidable. Il n'y aura plus ni douleur, ni meurtre, ni occultisme. Il n'y aura plus de destructeurs de la nature. Toutes ces personnes-là le payeront cher. C'est ainsi que Dieu le veut. C'est ainsi que Dieu l'a annoncé. Amen.